Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 21 juillet. Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec en votre compagnie. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Idrissa, bonsoir l'Afrique.
À Brazzaville, les Centrafricains discutent de paix et réconciliation. Le forum s'est ouvert aujourd'hui.
En Libye, près de 50 morts hier dans les affrontements pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli.
Les appels se multiplient pour l'arrêt des combats à Gaza.
Ukraine, le président Obama demande l'intervention de Moscou pour le libre accès au site où l'avion malaisien a été abattu jeudi.
La 20e conférence internationale sur le sida, amélioration des moyens de prévention et de traitement au cœur des débats.
Il faut qu'on fasse vraiment un effort dans les 5 années qui viennent pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent avoir accès à la connaissance de leur séropositivité ou non.
Le docteur Roger Salatunga donne sida. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
Au 14e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, au moins 530 Palestiniens ont été tués. Côté israélien, 27 soldats sont morts depuis le début de l'offensive. Comme la journée d'hier a été particulièrement meurtrière, les appels se multiplient pour l'arrêt des combats. On fait le point avec Nicolas Pineau.
Oui, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le secrétaire d'État américain, John Kerry, se rendent au Caire. La capitale égyptienne est le théâtre d'intenses tractations pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Barack Obama a déclaré que la préoccupation majeure était la cessation des hostilités pour empêcher la mort de civils innocents des deux côtés. C'est le même son de cloche pour François Hollande, qui a dit que tout doit être fait pour mettre un arrêt immédiat à la souffrance des populations civiles à Gaza. Mais ce lundi, l'aviation israélienne a bombardé plus de 50 cibles, dont 2 fabriques d'armes et 6 sites souterrains dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas a tiré plus de 50 roquettes et tente d'infiltrer ses combattants en Israël. 10 d'entre eux ont été tués aujourd'hui. Plus de 530 Palestiniens, en majorité des civils, sont morts depuis le début de l'opération israélienne.
Le président Barack Obama a demandé à Moscou d'user de son influence auprès des rebelles dans l'est de l'Ukraine pour permettre aux enquêteurs internationaux d'accéder librement au site du crash de l'avion malaisien abattu la semaine dernière par un missile. Chérubin Dorsil.
Pour M. Obama, qui parlait aujourd'hui à la Maison-Blanche, il nous faut savoir la vérité sur ce site dont l'accès est bloqué par les séparatistes pro-russes. Ces derniers retirent sans le moindre soin les corps, ce qui constitue, a poursuivi le président, une insulte à ceux qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe. La Russie et le président Vladimir Poutine doivent forcer ceux qu'ils ont encouragés, entraînés et armés à cesser d'entraver l'enquête, a encore dit M. Obama. Les enquêteurs néerlandais sur place ont demandé ce lundi aux rebelles de laisser partir le train réfrigéré contenant les corps des victimes. Et les leaders européens se disent prêts à prendre d'autres sanctions contre la Russie, à défaut d'un accès libre et total au site. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a offert de confier la coordination de l'enquête internationale aux Pays-Bas, le pays qui a le plus souffert de la catastrophe.
Sachez aussi que de nouveaux affrontements entre soldats ukrainiens et rebelles séparatistes ont fait au moins 3 morts près de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les troupes gouvernementales tentent de reprendre la ville après avoir reconquéri plusieurs villages dans la zone. Selon un porte-parole de l'armée nationale, l'aéroport est sous contrôle gouvernemental. Les deux camps ont ignoré l'appel à un cessez-le-feu après la tragédie de l'avion de ligne malaisien où 298 personnes ont trouvé la mort.
L'Iran a converti ou dilué sa réserve d'uranium hautement enrichi en vertu de l'accord signé avec le groupe des 6 en novembre dernier. L'Agence internationale de l'énergie atomique précise que plus de 200 kg d'uranium enrichi à 20% ont ainsi été rendus inoffensifs. Les deux parties devaient aboutir à un accord permanent dimanche, mais elles ont convenu de prolonger les négociations jusqu'au 24 novembre.
En Libye, les violents combats pour le contrôle de l'aéroport international de Tripoli ont fait près de 50 morts. Les affrontements entre les islamistes et les milices de Zintan s'étendent désormais sur les zones résidentielles. Jean-Roger Billon.
Ce sont les pires violences en Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Des milliers de personnes ont fui leur maison alors que les groupes armés continuent d'échanger des tirs de mitrailleuses, de canons et de roquettes. Certains habitants sont pris au piège dans leur maison. Les Nations Unies ont retiré leur personnel de Libye pour des raisons de sécurité. Les vols internationaux à l'aéroport de Tripoli sont interrompus depuis lundi dernier et certains experts de l'aviation pensent que l'aéroport sera fermé pendant des mois en raison de l'ampleur des dégâts. Les milices impliquées dans le conflit de l'aéroport sont respectivement les alliés des factions politiques libérales et islamistes en rivalité pour le contrôle du Parlement libyen, le Congrès national. Les résultats des élections législatives devaient être annoncés dimanche, mais ont été reportés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 800 migrants ont été secourus la nuit dernière en Méditerranée. Selon la marine militaire italienne, il y a eu 5 décès. Ils étaient à bord de 4 navires, dont un canot pneumatique.
4 hommes à moto ont ouvert le feu dimanche soir dans le centre de Mombasa, tuant au moins 4 personnes. On fait le point avec Michel Joseph.
Le chef de la police de Mombasa, Robert Kitour, a déclaré qu'il n'a pas encore identifié les assaillants et ne peut pour l'instant dire s'il s'agit d'un acte criminel ou terroriste. Mombasa, comme Nairobi et d'autres villes kényanes, ont été visées par plusieurs attaques à la bombe ou la grenade. La plupart des attentats ont été revendiqués par les islamistes somaliens, Shebab, qui disent que c'est en représailles à l'intervention militaire kényane en Somalie. Depuis la mi-juin, près de 100 personnes ont été tuées dans plusieurs raids dans la région touristique de Lamu. Plusieurs ambassades occidentales ont conseillé à leurs citoyens d'éviter de se rendre à Mombasa et sur la côte est, ce qui affecte durement le tourisme, un des piliers de l'économie kényane.
Je corrige.
Le forum de Brazzaville s'est ouvert aujourd'hui pour tenter de réconcilier les centrafricains. Sur le terrain à Bangui, un membre de l'ex-Seleka a échappé à une tentative d'assassinat. Le point avec Idriss Fall.
Le forum a démarré au Palais des Congrès à Brazzaville et va durer 3 jours. Au moins 186 centrafricains participent à cette énième réunion pour la réconciliation. Peu avant le début des travaux, la communauté centrafricaine vivant au Congo a marché pacifiquement pour protester contre la poursuite des violences en Centrafrique. Par ailleurs, à Bangui, le calme est revenu dans le premier arrondissement. Des ex-Seleka casernés au bataillon du soutien et des services ont tiré en l'air ce matin pour protester contre une tentative d'assassinat d'un des leurs par des hommes assimilés aux anti-Balaka. À cause de l'insécurité, 87 Maliens qui étaient coincés à Boda dans le sud du pays sont arrivés ce week-end à Bangui. Maëve Donnel de l'Organisation internationale pour les migrations.
C'est le gouvernement de Mali qui nous a demandé d'organiser le logistique et le gouvernement de Mali organise l'évacuation des Maliens à Boda et à Bangui. Il y aura des avions qui vont arriver pour les amener à Bamako.
Avec l'appui de l'OIM, ces Maliens seront rapatriés cette semaine dans leur pays d'origine.
Au Soudan du Sud, forces gouvernementales et rebelles continuent de s'affronter à Nassir, petite ville dans le nord-est du pays. La mission de l'ONU dit ne pas savoir si la localité a changé de main. Ces derniers combats interviennent au lendemain de l'offensive lancée par les rebelles sur leur ancien QG.
Un hélicoptère militaire nigérian s'est écrasé dans l'état de Borno, où l'armée et les islamistes de Boko Haram s'affrontent régulièrement. L'armée affirme que l'appareil n'a pas été la cible d'une attaque.
Flambée de choléra au Nigeria, les autorités sanitaires régionales citées par l'AFP comptent au moins 6 morts cette semaine à Kaffine Dalawa, dans l'état de Kano, sur un total de 46 cas. Isma Medicare Initiative, une ONG locale, parle de 16 morts.
Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé un nouveau projet destiné à renforcer la traçabilité de la production de diamants bruts du pays. Le défi est le suivant, passer du diamant du sang au diamant du développement. Le projet vise à augmenter le volume de diamants artisanaux qui entrent dans la chaîne légale, explique le gouvernement. Une mesure qui intervient suite à la levée de l'embargo qui frappait depuis 2005 les pierres précieuses ivoiriennes.
La conférence internationale sur la lutte contre le sida, à laquelle beaucoup de victimes du vol de Malaysia Airlines allaient prendre part, se déroule à Melbourne, en Australie. Environ 12 000 délégués, dont des chercheurs, des activistes et des personnes vivant avec le VIH-Sida, se rencontreront jusqu'à vendredi pour envisager les meilleures réponses à la maladie et la façon d'accélérer les méthodes de prévention et de traitement. Nous y reviendrons plus tard dans cette émission.
Le président Barack Obama a signé aujourd'hui deux décrets interdisant la discrimination contre les homosexuels et transsexuels employés par le gouvernement fédéral. Le chef de l'exécutif américain souhaite éventuellement l'adoption d'une loi qui offrirait la même protection à travers tout le pays. En attendant, 24 000 entreprises employant 28 millions de personnes, soit environ le cinquième de la force de travail aux États-Unis, seront concernées par ces mesures.
La Sûreté fédérale américaine aurait poussé des musulmans américains à commettre des attentats après le 11 septembre 2011. Cette révélation est contenue dans un rapport de Human Rights Watch cité par l'AFP. Le FBI aurait même payé certains musulmans pour leur participation à ces opérations clandestines. L'Organisation de défense des droits humains a étudié 27 affaires et interviewé 215 personnes pour aboutir à ces conclusions. Les autorités américaines n'ont pas encore réagi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Idrissa Seloudia et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour la partie magazine de cette émission.
La synergie des travailleurs du Togo demande la révision de la grille salariale, menaçant même de faire la grève si cette revendication n'est pas satisfaite. Vendredi dernier, la STT a rencontré ses membres pour suspendre la trêve sociale consentie en octobre 2013. De Lomé, le reportage de notre correspondante Kaye Lawson.
Après 8 mois de trêve sociale, suite à la signature de l'accord d'étape du 7 octobre 2013, la synergie des travailleurs du Togo remet ses revendications sur le tapis. La STT vient de reprendre son bâton de pèlerin pour la défense de la cause des travailleurs togolais, car les acquis obtenus demeurent aléatoires, estime-t-on à la synergie. Docteur Gilbert Tcholenyanou, porte-parole de la STT.
Nous avons des acquis qui sont non acquis. Ce qui voudrait dire, pour être clair, que le salaire que les gens gagnent aujourd'hui, qu'ils ne soient pas surpris de ne plus avoir le même salaire en 2015, mais qu'ils aient un salaire au rabais. En signant le 7 octobre 2013 l'accord d'étape, il a été bien dit qu'à l'issue du premier semestre, on devra rouvrir la table de négociation avec la synergie pour essayer donc d'apurer les autres points qui restent à la plateforme.
Comme prévu dans cet accord du 7 octobre, le gouvernement togolais a rouvert le dialogue social avec les centrales syndicales. Les discussions n'évoluant pas, les responsables syndicaux ont dû rencontrer la semaine passée le premier ministre. Yves Palanga, porte-parole des centrales syndicales.
Nous avons commencé par discuter d'une grille consensuelle avec les deux ministres, le ministre de la fonction publique et le ministre du Travail. Suite à un achoppement, nous avons demandé à rencontrer le premier ministre. Nous lui avons demandé, en plus des primes forfaitaires qui devaient être intégrées au salaire, de faire des redressements, soit sur le SMIC, soit sur les 30 points.
La grille salariale proposée par le gouvernement togolais ne reçoit pas l'assentiment de la STT. Cette organisation syndicale brandit la menace de grève et demande l'ouverture des négociations sur sa plateforme revendicative. Docteur Gilbert Tcholenyanou.
Le principe de grève est acquis. Cependant, il y a une série d'actions à mener. Il s'agira pour nous d'envoyer un courrier dans la semaine au gouvernement, lui signifiant notre désaccord par rapport à la grille qui est proposée, qui sera adoptée en l'état, nous croyons. L'autre élément, c'est que nous comptons revenir à la plateforme initiale de la synergie. Ce qui voudrait dire que nous appelons à l'ouverture rapide de la table de négociation comme convenu dans l'accord du 7 octobre 2013.
Les travailleurs togolais pourraient rentrer en grève dans le courant du mois d'août puisque lors de l'Assemblée générale du 18 juillet dernier, ils se sont donné 2 semaines pour des démarches. Une autre assemblée est prévue pour le 1er août prochain, une rencontre qui définira les nouvelles directives à donner à la lutte syndicale. Kaye Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Des négociants suisses font main basse sur le pétrole africain. Une enquête inédite révèle l'ampleur des achats de brut réalisés par les négociants helvétiques auprès des gouvernements des 10 principaux pays exportateurs d'Afrique subsaharienne. Entre 2011 et 2013, les firmes en question ont acheté du pétrole pour au moins 55 milliards de dollars et se sont aménagées une part de marché de 25%.
Ces sociétés helvétiques de négoce dominent les exportations au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Nigeria et au Tchad, où Glencore a acquis l'année dernière 100% de la part étatique du pétrole, soit 16% du budget national du Tchad, l'un des plus pauvres de la planète. Idriss Falajouin à Genève, Marc Guigna, enquêteur de la déclaration de Berne, une ONG helvétique.
Les négociants suisses en matière première, et en particulier dans le pétrole, se rendent dans les pays africains et rencontrent les dirigeants de ces pays, en particulier les dirigeants des compagnies pétrolières nationales, donc des compagnies à capitaux publics, qui sont chargés, pour le compte du gouvernement, de mettre en vente le pétrole de l'État. Les négociants suisses se montrent apparemment particulièrement habiles pour obtenir des quotas d'exportation, si bien qu'ils dominent dans la plupart des grands pays producteurs d'Afrique subsaharienne.
10 principaux pays producteurs, et tout ceci, ça représente combien, en fait, si on parle d'argent liquide?
D'après les données qu'on a réussi à réunir pour les années 2011 à 2013, sur ces 10 pays, les négociants suisses en matière première ont acheté pour environ 55 milliards de dollars de pétrole auprès des gouvernements africains. Ça représente à peu près un quart de la part de marché sur les données qu'on a pu réunir.
Pour un pays comme le Nigeria, comment ça se passe?
Contre le Nigeria, les négociants suisses dominent. Et sur les 3 années sous revue, ils ont acheté pour plus de 37 milliards de dollars de pétrole brut, ce qui représente quand même entre 18 et 20% du budget de la première économie du continent.
Et qu'en est-il pour le Tchad alors?
Alors au Tchad, d'après les données qu'on a pu récolter, c'est très simple. C'est un monopole de la société suisse Glencore qui achète 100% du pétrole mis en vente par le gouvernement.
Et mais cet argent, il va où?
C'est une excellente question. Je pense qu'il faudrait poser la question au gouvernement concerné. C'est le sens de notre travail de recherche. C'est pour permettre finalement aux populations de ces pays de se poser les bonnes questions et de poser les bonnes questions surtout à leur gouvernement pour dire mais écoutez, finalement, où est-ce que va cet argent? Chaque année, on gagne des milliards de dollars avec ces ventes de pétrole et puis on n'en voit pas la couleur sous forme d'infrastructures, sous forme d'écoles, sous forme d'hôpitaux. La transparence qu'on essaye d'amener est le début finalement d'une conversation entre les populations des pays producteurs et leur gouvernement.
Voilà, c'était Marc Guigna, enquêteur de la déclaration de Berne, une ONG helvétique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
La croissance économique rime difficilement avec équité sociale, nous rappelle Kassim Traoré, notre correspondant au Mali. Cette réalité, dit-il, pèse lourd dans les pays en voie de développement où les citoyens ne sont pas satisfaits quant au partage des biens. Le fossé reste trop vaste entre les bons points économiques et le niveau de vie des populations. C'est le cas au Mali, où notre correspondant Kassim Traoré s'est penché sur ce paradoxe.
La croissance économique, par définition, est la variation annuelle du produit intérieur brut d'un pays ou d'une nation. Elle détermine la santé économique d'un pays à travers la production des biens et des services, ainsi que la création d'emplois. Au fil des années, le concept de produit intérieur a évolué. Abdoulaye Niang, économiste.
Et dans les années 70, le concept de produit intérieur brut a pris la place du produit national brut. Donc quand il y a produit intérieur brut, ça veut dire qu'il y a de la richesse qui est générée, des emplois générés, mais on ne fait pas de distinction à qui appartient la richesse et l'emploi. C'est-à-dire que c'est sans distinction de la nationalité, mais plutôt c'est la richesse et les emplois de la nation. Alors que le PNB, le produit national brut, on distingue la nationalité. On dit que c'est ce qui appartient aux Maliens. Donc quand il y a de la richesse générée, maintenant aujourd'hui, à travers le PIB, c'est pour tout le monde.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croissance économique rime difficilement avec équité sociale. La fracture entre les bons points économiques et le niveau de vie des populations reste importante.
Et c'est ce qui est la situation paradoxale du Mali. et qui aujourd'hui, grâce à des mesures et des programmes de stimulation du développement de la capacité de création de croissance économique du Mali, a permis de faire du Mali un élève excellent en matière de création de croissance économique à travers 9 mines d'or industrielles, à travers sa position dans la production du coton, à travers la téléphonie. Donc finalement, le Mali est noté très bon élève, ou bien un élève excellent. Mais maintenant, en ce qui concerne les ménages, les populations, vous et moi, la rétention de la richesse et des emplois de la nation ne permet pas à vous de dire que l'or qui brille pour la nation du Mali brille au sein de votre ménage.
Pour assurer une meilleure répartition de la richesse d'une nation, il existe cependant des stratégies et la clé de voûte de ces stratégies demeure la bonne gouvernance. Abdoulaye Niang, économiste.
Pour qu'il y ait un partage équitable de la richesse et des emplois de la nation, il nous faut une vision de globalisation du co-entrepreneuriat. Cette vision doit être axée sur la prospérité partagée. Mais une prospérité partagée qui amène d'abord la stabilité, la paix et la sécurité, mais surtout le développement humain durable. Si vous générez 80 à 100 tonnes d'or par an et qu'on n'arrive pas à payer les fonctionnaires convenablement pour qu'ils aspirent pour aller vers leur classe de moyenne de richesse, ce n'est pas compréhensible.
Une chose est de créer la croissance économique. L'autre est d'assurer un partage équitable de la richesse entre les citoyens d'une même nation. Une équation à laquelle nombre de pays sont butés. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
La 20e conférence internationale sur le sida à Melbourne, en Australie, porte sur le droit des populations les plus touchées par l'épidémie, Idrissa.
Oui, le projet de déclaration de Melbourne évoque ainsi le fait que si 35 millions de personnes sont encore porteuses du virus, plus de la moitié d'entre elles ne le savent pas. La conférence veut identifier les moyens d'atteindre ces populations, souvent les plus à risque et aussi souvent les plus victimes de discrimination.
On écoute le docteur Roger Salan-Tunga du bureau exécutif d'ONU-SIDA.
Il faut qu'on fasse vraiment un effort dans les 5 années qui viennent pour que le plus grand nombre de personnes possibles puissent avoir accès à la connaissance de leur séropositivité ou non. Parce que c'est vraiment le premier pas vers la recherche du traitement. Et on sait maintenant que le traitement contribue à la prévention de nouvelles infections.
Le plus grand nombre de séropositifs et de sidéens se trouve toujours en Afrique subsaharienne, où ils sont quelque 25 millions. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que vous attendez de la conférence de Melbourne?
D'abord, vous savez que la transmission du virus de la mère à l'enfant, c'est encore plus de 200 000 par an en Afrique au sud du Sahara, alors qu'elle a pratiquement disparu dans les autres continents. Donc, il y a des efforts énormes à faire de ce côté-là. Tout ce qui est traitement pédiatrique pour que les formules de traitement pour les enfants soient de plus en plus disponibles. Et puis aussi, l'accès à la connaissance de si on est infecté ou pas demande encore beaucoup d'efforts en Afrique subsaharienne. Et puis, vous savez aussi que la plupart des personnes qui sont sous traitement en Afrique au sud du Sahara sont sous traitement de première et deuxième génération pour lesquelles on a obtenu des médicaments génériques. Donc, il faudrait qu'on travaille maintenant pour que les nouvelles générations de médicaments puissent être disponibles aussi en Afrique au sud du Sahara. Parce que les gens, quand ils sont mis sous traitement, c'est pour la vie. Et puis, on ne peut pas rester toute la vie sur des traitements de première génération ou de deuxième génération.
La tuberculose continue d'être la principale cause de décès parmi les séropositifs et sidéens. Est-ce que de ce côté-là, on a des espoirs?
On a des traitements qui sont disponibles depuis plusieurs années déjà. Donc, nous, on essaye de travailler très, très étroitement avec le programme Halte à la tuberculose. On essaye de faire en sorte que tous les programmes dans les pays qui s'adressent au VIH-SIDA ne le fassent pas en isolation, qu'ils tiennent en compte aussi ce qui se passe au niveau des hépatites virales et essentiellement aussi au niveau de la tuberculose.
Le docteur Roger Salan-Tunga du bureau exécutif d'ONU-SIDA qui était joint par Camille Gros-Didier.
Le monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, Idrissa Seroudia et Morgane Guerrier en votre compagnie. Place au sport avec Nicolas Pinault.
Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Nicolas. Eh bien, apparemment, on n'est pas trop fatigué du football après toutes ces semaines de Coupe du Monde non-stop. Hein. Le football était encore à l'honneur ce week-end sur le continent. Les matchs allaient du troisième tour de la CAN 2015.
Eh oui Idrissa, les équipes à domicile ont eu le sourire ce week-end. Samedi, le Botswana a battu la Guinée-Bissau 2-0. La Mauritanie s'incline en Ouganda 2-0. Le Sierra Leone bat les Seychelles 2-0. Et dimanche, le Lesotho a dominé le Kenya 1-0. Match nul entre la Tanzanie et le Mozambique, 2-0. Et à Pointe-Noire, la République du Congo a battu le Rwanda 2-0 grâce à César Ganzé à la 70e minute, puis Ferebori Doré à la 86e. À Cotonou, le Bénin a dû se contenter d'une petite victoire 1-0 face au Malawi, comme nous l'explique Élisée Oumpatine.
Service minimum pour les écureuils du Bénin face aux flammes du Malawi. Pour ce match comptant pour le deuxième tour qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015, le Bénin devrait s'imposer au stade de l'Amitié de Cotonou, pas totalement rempli ce dimanche. Et c'est devant le chef de l'État, Boni Yayi, que les écureuils ont fait l'essentiel devant un adversaire à portée de main. Pour Didier, Olé, Nicole, satisfait de ce résultat, le plus important donc c'est la victoire. Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux. À la 18e minute de jeu, Stéphane Sessayon profite du travail de Rudy Gestede pour ouvrir le score. Galvanisé, les coéquipiers du capitaine du 11 national ont multiplié les attaques sans pouvoir corser l'addition. Rudy Gestede, Jordel Dessou, Mouri Ogumbi ou encore Stéphane Sessayon qui se sont procurés plusieurs occasions ne sont jamais parvenus à les mettre au fond des filets d'une équipe du Malawi organisée. Le match retour s'annonce donc difficile pour les écureuils qui n'ont pas su se mettre à l'abri. Deux semaines donc pour se préparer au mieux quand on sait que ce rendez-vous ne sera pas livré à une date FIFA. Ce qui complique la tâche à Didier Olé-Nicole.
Élisée Oumpati, Boycon, La Voix de l'Amérique.
Ah, pour revenir sur les retombées de la Coupe du Monde de football, le Brésil a un nouveau sélectionneur.
Et oui, Idrissa, comme annoncé, la fédération brésilienne n'a pas tardé à trouver un successeur à Luis Felipe Scolari, limogé juste après une Coupe du Monde qui s'est terminée par deux camouflets. Les dirigeants ont fait un choix très conservateur en nommant Dunga, qui doit être intronisé demain à la tête de la Seleção.
Alors, la rubrique transfert.
L'arrière latéral français de Manchester United, Patrice Evra, s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec la Juventus de Turin en Italie. Et enfin, cette dernière information, le capitaine de l'Angleterre et milieu de Liverpool, Steven Gerrard, a décidé de prendre sa retraite internationale à l'âge de 34 ans et après 114 sélections avec l'Angleterre.
Merci Nicolas, que l'on retrouve tout à l'heure dans Sporama.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Idrissa. Même si le couple tente de garder la face, rien ne va plus entre eux. Beyoncé et Jay-Z pourraient attendre la fin de leur tournée pour annoncer la fin de leur couple, selon un message qu'ils ont posté sur les sites Instagram. Leurs problèmes ont commencé depuis que la chaîne télé TMZ a dévoilé la vidéo montrant Solange, hein, la sœur de Beyoncé, en train d'attaquer Jay-Z dans un ascenseur le 5 mai 2014. Écoutons Beyoncé on sait dans Love on Top. Bring the beat in.
Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever. Me, I just melt too. Now everybody asks me why I'm smiling on from ear to ear. But I know nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the
Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de la VOA. Prochain rendez-vous dans une demi-heure avec Idrissa Seloudia et
Morgane Diriec.
Boy, your lips taste like the night.
get it.